Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et bonsoir Estelle.
Bonsoir, bonsoir Sabine.
Ravie de faire votre connaissance.
Bah, écoutez, merci de me prendre à l'antenne pour pouvoir un peu m'avoir raconté un peu ma vie.
Alors, je vous écoute.
Donc, en fait, j'ai 52 ans. Et bon, bah, j'ai des gros problèmes de relationnel avec mes parents et mes sœurs. Voilà, et donc j'ai toute ma vie, j'ai pas pu me construire personnellement, je pense à cause de cette relation. Et donc voilà, je vous appelle pour avoir des conseils, savoir un peu comment je peux remédier un peu à ça.
Alors racontez-moi, vous êtes la combienième de la fratrie?
Moi je suis la première.
L'aînée.
Et j'ai deux sœurs. Je suis l'aînée, oui.
Donc trois filles, d'accord.
On est trois filles. J'ai un papa, bon j'écoutais la jeune fille juste avant vous. Alors moi c'est un petit peu le contraire. J'ai un papa qui a 75 ans maintenant et qui a été soumis aux femmes toute sa vie.
Ah oui.
Et pas de chance pour lui, on va dire. Il a eu trois filles. Et donc ça a été très compliqué parce que je pense que mon père n'était pas fait pour être père. Et de plus, il voulait, je pense, un garçon et il a eu trois filles.
La vie est farce. Hein.
C'est incroyable.
Et donc, j'en déduis que votre mère est une femme à forte personnalité.
Voilà, tout à fait. Alors, oui. C'est tout à fait le contraire, complètement le contraire. Mais rajoutant quelque chose de grave aussi qui s'est passé, c'est que mon père, son père, donc mon grand-père que je n'ai pas connu, s'est suicidé.
Il avait quel âge, votre père, à ce moment-là?
22 ans.
Quand son père... Oui, oh là là, oui.
Et c'est lui qui l'a trouvé.
Ouf.
Oui. Et nous portons ce poids, en fait... Parce que dans cette famille, on ne peut pas parler de cette histoire.
Ah oui, donc en plus, oui, d'accord. Oui.
Cette personne qui s'est donné la mort, je dis ça parce que moi je le connais pas. Jamais on nous en a parlé. Et mon père, je pense, est quelqu'un qui est très malheureux. Toute sa vie a été très malheureux. Une maman très castratrice, une femme très autoritaire, trois filles. Et dont moi, j'ai été la rebelle de la famille.
C'est intéressant quand vous dites cet homme qui s'est suicidé, c'est votre grand-père quand même. Même si vous ne l'avez pas connu, c'est votre grand-père. Ça n'est pas rien.
Non, ah oui, bien sûr que ça n'est pas rien.
Mais ça en dit long sur les non-dits, justement. Oui.
Voilà.
Et les non-liens.
Exactement. On nous l'a toujours caché. Moi, je l'ai découvert, je l'ai appris quand j'avais 18 ans ou 17 ans.
Comment vous l'avez appris?
Par ma cousine. Et ça m'a choquée parce qu'on nous a toujours dit qu'il était mort d'une crise cardiaque, mais jamais personne n'a parlé de... J'arrive même pas à dire mon grand-père. Jamais personne n'a parlé de cet homme, en fait. Il n'a jamais existé.
Est-ce que c'est le tabou autour du suicide ou c'est globalement une famille qui est juste taiseuse, comme ça, qui ne partage pas ses émotions, qui ne parle pas?
Exactement. C'est une famille aussi bien du côté de mon père, oui, tout à fait. Personne ne parle jamais de rien. Une famille très catholique, avec une grand-mère très castratrice. Ma grand-mère était comme ça. Les femmes sont des femmes. Les hommes, les femmes, ménage, maison, mariage. Et encore, on n'en parlait pas. C'est très... Ouais, c'est bizarre, j'ai 52 ans, mais pour moi, c'est encore... je ne comprends pas comment on pouvait se comporter comme ça, on peut se comporter comme ça. Mon père donc est né dans cette famille-là et je pense que son père quand il s'est suicidé, ça a été un grand choc.
Puis c'est le tabou suprême dans ce genre de famille en plus.
Et oui,
c'est vraiment le sujet qu'on n'aborde pas quoi.
C'est vraiment un tabou incroyable et mon père on a été très malheureux, nous a donc complètement rejetés. On n'a pas de lien avec mon père, donc c'est pareil. Des fois, je dis mon père, mais j'ai du mal. Comme mon grand-père, j'arrive pas à le dire.
Et quand vous dites rejeté, ça s'est matérialisé comment? Il était physiquement là, quand même, ou il a quitté la maison?
Oui, oui.
Non, il était là.
Non, mais il a toujours été là. Mes parents sont toujours mariés. Mais mon père a toujours été dans un autre monde.
Un présent absent, quoi.
Complètement. Mmh. C'est-à-dire là, sans être là, ne parlait jamais, nous a jamais touché de tendresse. On n'a jamais eu d'affection. On n'a jamais rien partagé. Même toute petite, on a été... Il n'y avait que ma mère qui gérait tout. Parce que mon père, je crois que maintenant, avec le recul, n'avait pas la force de quoi que ce soit. Il a toujours travaillé pour certainement oublier ce qui s'est passé. Et il n'a jamais eu la force, je pense, de quoi que ce soit envers sa famille, si vous voulez. On n'a jamais parlé de rien.
Quand vous avez su pour son père, pour votre grand-père, est-ce que vous lui en avez parlé ?
Ah non, à ma mère uniquement, jamais à mon père.
Ah oui, tiens.
Jamais, parce que mon père me fait peur, parce qu'il a une tristesse et un malaise et dans ses yeux, dans son attitude
qui vous repousse.
Qui me dérange, qui me repousse complètement. Mmh. Je n'arrive pas à... Je n'ai même... C'est dur de dire ça, mais je ne ressens pas vraiment d'amour pour mon père. Alors que j'aurais tellement rêvé d'avoir un père, un vrai père.
Mais là, c'est un homme cassé, d'après ce que j'entends.
Ah oui, complètement, oui.
Et qu'est-ce que votre mère a répondu quand vous avez dit que vous saviez ?
Rien, elle a dit ça ne me regardait pas.
Ah oui, ça n'a même pas ouvert une conversation.
Ah non, pas du tout. Ah. Après, si par la suite, on en a parlé, mais beaucoup trop tard. On a eu tous malaise toute notre enfance, un père malheureux, triste.
Le secret de famille par-dessus.
Voilà. Mmh. Et que le soir, quand il rentrait, il ne nous parlait pas. Il ne s'est jamais occupé de nous, ni des devoirs, ni nous emmener, ni nous faire un cinéma, faire une balade en forêt. Enfin, on n'a jamais, vous voyez, c'est une petite chose que... On n'a jamais rien fait. Et là, moi, je suis maman, j'ai un fils. J'ai eu un fils.
Tiens, c'est intéressant, ça.
Oui.
Ça aussi. Alors,
oui, non, mais c'est... Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai dit que quand j'aurai un enfant, je ne veux pas de fille. J'ai toujours dit je ne veux pas de fille. J'étais très, très... J'ai eu un enfant tard, à 37 ans. Mm-hmm. Mon seul fils, Diego, qui a 15 ans et demi maintenant. Et j'ai toujours dit, il faut que ce soit un garçon, parce que je crois que je ne pourrais pas aimer si c'est une fille. Et quand j'ai su que c'était un garçon, je n'en revenais pas.
Bon, c'est probablement pas aussi définitif que ça. Vous auriez une fille, vous l'auriez aimée, vous auriez fait un travail différent pour l'approcher.
Ça aurait déclenché autre chose. Mais sur le moment,
oui, je comprends.
Parce qu'avec ce qu'on a vécu, je me suis dit, voilà, la pauvre, je pourrais peut-être.
Elle va en hériter encore, quoi. Oui.
Voilà, mais bon, évidemment, maintenant, avec le recul, vous voyez, j'ai trois nièces. Par contre, une de mes sœurs a eu trois filles.
Et oui.
Et mes nièces, je les adore, voilà.
C'est pour ça que je vous dis que c'était un peu catégorique, mais c'est normal, c'est la peur qui parlait à ce moment-là.
C'est exactement. Donc j'ai eu mon fils. Et donc figurez-vous que mon père a 7 petits-enfants et mon père ne partage absolument rien. Il reproduit la même chose sur ses petits-enfants.
Même avec votre fils, lui qui voulait un garçon.
De quoi ?
Avec votre fils, il n'est pas plus proche.
Pas du tout. Oh non, absolument pas. Ni avec son autre petit-fils qui a 19 ans.
Donc même les garçons, absolument, vous voyez, finalement, c'est pas une question de fille ou garçon. Oui. Hein. Donc c'est juste qu'il n'est pas capable de dépasser cette...
C'est ça, exactement. Il n'est pas capable de donner d'amour. Il n'est pas capable, puisqu'on ne lui en a pas donné, puisqu'il a été coupé de son père, puisque sa mère a été vraiment pas du tout sympa. Et voilà, il n'a jamais pu en parler à personne.
Il s'est bloqué. Ce qui est dommage, c'est ça, c'est qu'il s'est bloqué, finalement.
Voilà,
il est resté coincé au moment où tout ça s'est produit et depuis, il n'a pas réussi à avancer.
Exactement. Et il vit toujours dans un monde d'il y a 60 ans.
Ça va terrible pour lui en même temps.
Oh, très dur. Bah, d'ailleurs, moi, j'ai 10 fois, ça fait 30 ans que je dis à ma mère qu'il est malade, qu'il est dépressif,
ah oui,
qu'il doit être soigné. Jamais on a écouté ma parole. Jamais. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu veux ?
Votre mère n'est pas là d'être quelqu'un qui est dans l'empathie, en tout cas.
Non.
C'est
non,
pas le genre.
Non, du tout. Voilà, donc en fait, elle a beaucoup protégé mon père, qui nous fait du mal, qui nous a fait beaucoup de mal. Et je ne comprends pas comment une mère a préféré préfère toujours maintenant encore prendre la défense de son mari, alors que ses filles souffrent énormément. J'ai toujours dit, mais pourquoi tu restes avec lui? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi vous êtes encore ensemble? Vous rendez compte des enfants qui disent à ses parents, séparez-vous.
Alors ça ne devrait pas être le rôle, ça. C'est qu'elle y a trouvé aussi un intérêt, vous savez, dans des couples aussi dysfonctionnels soient-ils, il y a toujours un intérêt pour l'un et pour l'autre. Oui, sinon, ils ne resteraient pas ensemble.
Et ils sont toujours ensemble et moi, ça me fait du mal parce que ma mère a choisi le côté de mon père qui fait souffrir. D'ailleurs, moi, je ne le vois jamais quasiment une fois par an.
Oui, c'est quand
je le vois, et quand je le vois, c'est de la queue de la douleur, en fait. Et donc, ça me rend méchante. Ça me rend, quand je le vois, j'ai envie de tout casser.
Vous n'arrivez pas à tourner la page sur ce plan-là? Parce que là, je crains que les choses ne changent plus, là.
Ah non, il n'y aurait plus rien à faire. Bien sûr que je tourne la page parce que je ne les fréquente plus. Le fait de les fréquenter, voilà, je fuis le mal. C'est dommage, ce sont quand même mes parents. Je me dis, on n'a qu'une vie. Et j'ai eu beau m'expliquer des centaines de fois avec ma mère. Mon père aussi est au courant de pourquoi on ne se parle pas. Mais voilà, et ça me rend... Donc je veux fuir ces personnes parce que j'ai l'impression d'être seule, de ne pas avoir de famille.
Et vos sœurs?
Donc mes sœurs, c'est pareil. Elles vivent la même situation de leur côté. Et nous, on ne se voit pas non plus.
Vous avez parlé de vos nièces que vous aimiez beaucoup.
Oui, alors mes nièces, c'est marrant parce que j'ai un rapport avec mes nièces. Heureusement qu'il y a le téléphone, les visios. Mes deux nièces, et on est très 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 proches alors que je ne parle pas à leur mère.
Ah oui, d'accord, c'est particulier aussi ça.
Ouais, c'est vraiment, voilà. Bon, par contre, maintenant, c'est vrai que j'ai fait un travail énorme sur moi. J'ai tourné la page, on va dire. Mais ça me rend vraiment triste parce que je ne vois plus non plus mes sœurs, parce que une de mes sœurs a hérité du côté très autoritaire de ma mère, avec des principes, des choses. Mon autre petite sœur, moi, elle est partie très jeune de la maison, elle s'est mariée très jeune.
Sauf qu'il peut.
Pour fuir aussi tout ça. Mmh. Et moi, je me suis retrouvée la rebelle de la famille. J'ai toujours dit tout fort ce que je pensais, tout fort ce que je ressentais. J'ai pleuré, j'ai tout. Et en fait, il n'y a jamais eu de pacte fait de mes parents. Et donc, c'est malheureux, quoi. Parce qu'ils vont quitter cette terre et j'aurais l'impression d'être passée vraiment à côté.
Alors, est-ce que votre fils connaît votre histoire? Est-ce qu'avec lui, vous avez pu parler, justement, arrêter ces non-dits?
Ah oui.
Oui.
Alors, oui, complètement. C'est-à-dire que moi, je suis tout le contraire. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Avec mon fils, on n'a pas de tabou. Mmh. On parle de tout.
C'est formidable, ça.
Ouais, ah oui, on a une relation, d'ailleurs, que mes parents et ma mère jalousent énormément. Je suis extrêmement critiquée sur mon rôle de mère, même encore maintenant. C'est pour ça que je les fuis. Mmh. Parce que moi, je suis quelqu'un de très, très... Alors, une maman complètement sans... Alors, tout le contraire, sans règles, très cool, très à l'écoute. À dire je t'aime 15 fois par jour, mon fils aussi.
Ah, c'est
à s'appeler tout le temps. On a cassé tout ça et mon fils est au courant de tout.
Non, ça c'est vraiment très important, c'est bien. Vous avez réussi ce qu'ils ont raté.
Exactement. Mmh. Et ça, le problème se pose parce que ma mère ne supporte pas la relation que j'ai avec mon fils. C'est quand même dingue.
Oui, c'est vrai que ça... Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, malheureusement, je crois que ça ne changera pas. Ce qui est dommage, c'est que vous n'arriviez pas à casser, j'allais dire, cette malédiction avec vos sœurs, que vous n'ayez pas réussi à ne pas reproduire cette haine et ces non-dits et ces fâcheries. C'est dommage, quand même.
Et c'est dommage.
Il faut attendre la génération d'après, vous voyez, votre fils et vos nièces, pour que ça se calme.
C'est ça. Alors qu'avec mes nièces ne comprennent pas non plus pourquoi on ne me parle pas, pourquoi je suis le vilain petit canard. Elles commencent à se fondoyer, maintenant elles ont 15 ans, 16 ans, elles commencent à voir clair, elle aussi, puisqu'elle ne supporte pas leur grand-père. Elles ne veulent pas le voir non plus. Mmh. Vous voyez, toute la famille le rejette. Et en fait, il apporte du malheur, il apporte de la malaisance, et ma mère, ça ne la dérange pas. Donc, tout le monde est parti, si vous voulez. Tout le monde est parti.
Oui, mais malheureusement, ça n'a pas resserré les liens entre les trois sœurs.
Non, ah non, pas du tout.
C'est ça qui est vraiment, vraiment dommage, je trouve.
Voilà. Je ne sais pas, que c'est pas que je ne sais plus quoi faire, mais on s'appelle de temps en temps avec une de mes sœurs, mais ça reste très, voilà, très, après 20 ans, voilà, très comment ça va, qu'est-ce que tu fais, puis ça s'arrête là, on ne peut pas parler de problème. Ça fait mal à mes sœurs.
Elles aussi, on dirait qu'elles sont bloquées dans une souffrance dont elles ne sortent pas.
Oui, voilà. Il n'y a que moi qui arrive à exprimer ce que je ressens, que... voilà, c'est pas grave, il est malade, il est dépressif, il est odieux aussi, mon père est très odieux, il peut être odieux parfois, il s'est déjà plusieurs fois dit qu'il allait se suicider lui aussi.
Quand on vit dans une telle souffrance, dans un tel enfermement, il y a de quoi être...
Ah mais oui, d'ailleurs je me demande comment il est encore en vie, avec toute cette souffrance qu'il a.
Il aurait pu reproduire effectivement ce geste, oui.
Exactement. Donc en fait, voilà, moi je voulais savoir si, enfin, j'ai pas le choix que de m'éloigner de ma famille, enfin surtout de mes parents, parce que ça me fait souffrir et que eux ne font rien. Moi, je pense avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'en fait, il y a rien en retour, quoi. Pas se sentir protégée, pas se sentir. Et donc moi, je suis devenue une femme sans homme dans ma vie. J'ai quand même vécu avec un peu le père de mon fils, mais on s'est séparés très rapidement. En fait, j'arrive pas à vivre avec un homme.
Il se voit quand même avec son papa ?
Ah oui, complètement. On s'entend très bien. On habite à côté. Hein. On est à 10 km.
Hein. D'accord. Donc ça, vous n'avez pas reproduit un conflit familial. Ça, c'est bien aussi.
Ah non, absolument pas. C'était hors de question. Hein. Même d'ailleurs, pour mon fils, je l'ai laissé vivre chez son père pendant 2 ans, à l'âge de 12 ans. J'ai pas créé de conflit. C'est moi qui j'ai quitté Paris pour venir me rapprocher du père de mon fils. J'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné ma vie à Paris pour venir vivre, donc j'habite à côté de Deauville, pour venir vivre là où le père de mon fils était, pour que mon fils était en manque de son père, et donc je voulais pas reproduire, donc moi, je suis venue et...
C'est formidable, ça.
Pour que mon fils voit son père tous les jours.
J'espère qu'il sait à quel point vous l'aimez, votre fils.
Hein. Oui, je pense.
Il le sait, oui.
Je pense que oui, et pour qu'il y pleurait, parce que je veux voir papa, c'est trop long. Et je sentais aussi que mon ex était malheureux de ne pas voir son fils. Et donc, pour casser tout ça, j'ai dit, mais pourquoi ce serait plus une mère qui aurait le droit d'avoir plus son fils qu'un père ? Et en fait, pour le bonheur de mon fils, j'ai tout quitté pour qu'il puisse voir son père au quotidien.
Vous êtes incroyable, Estelle, parce que finalement, vous êtes la seule qui a réussi à sortir de tous ces schémas, de tous ces cadres, de toute cette noirceur.
Hein. Oui, mais à quel prix ?
Oui, j'entends. Mais quelle belle victoire, je trouve. Hein. Et quelle belle réussite, votre fils. C'est presque un... Enfin, c'est pas presque, c'est votre plus belle réussite.
Ah oui, oui, oui.
C'est votre réponse à tout ça, finalement, vous voyez, à toute cette haine, à toute cette
noirceur. Je montre à mes parents, à mes sœurs, que voilà, vous voulez pas m'entendre, voilà ce que je fais avec mon fils. Et que ça vous plaise ou non, voilà où il en est, mon fils. Parce qu'en fait, c'est un enfant extraordinaire, en fait.
Et j'ai l'impression qu'il doit être chouette, ce garçon-là, oui.
C'est comme mon frère, mon copain, mon fils, évidemment, mais on se parle de tout. On se repose l'un sur l'autre. Lui, dès qu'il a un problème, il m'appelle. Il me raconte tout. C'est incroyable.
C'est bien qu'il y ait aussi le lien avec le père. Comme ça, ça garde aussi un équilibre intéressant.
Ah oui, et le père, on s'appelle beaucoup, on se voit aussi beaucoup, parce que mon fils est en sport-études polo, il va être joueur de polo. Et donc, il sera son métier puisque c'est beaucoup de tournois. Mmh. Et donc, on est liés par rapport à ça. Donc, avec le père, on se voit tout le temps, 3 à 4 fois par semaine.
Ouais, c'est ça, vous avez vraiment réussi l'exact contraire de vos parents, c'est-à-dire l'harmonie.
Exactement.
L'harmonie et l'amour.
Voilà.
Quel que soit ce qui se passe, finalement, quelles que soient les ruptures, quelles que soient les expériences.
Voilà, mais ça me rend triste, cette haine qu'il y a de l'autre côté, et comme je ne peux plus supporter ça.
Ben, c'est là que je vous rejoins, je pense que vous avez raison, le seul moyen de se protéger de la haine, c'est la distance.
C'est ça.
Il arrive un moment où on ne peut pas changer les gens.
Oui, exact. Ça, j'ai très bien compris depuis longtemps.
Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a tellement de gens qui se cassent la tête contre les murs à vouloir changer leurs parents, et à ne pas comprendre que ça ne fonctionne pas.
C'est ça. Et que je me dis, bon, ok, ce sont mes parents... J'ai pas eu les parents de ce côté, c'est pour ça que moi je suis la mère que j'aurais voulu avoir. Et en fait, je suis avec mon fils, la mère, et la preuve, puisque comme j'étais soi-disant une maman, j'avais pas de règles, j'avais pas de principes. Oui, mais ton fils, faut pas que ce soit comme ci, faut pas que ce soit comme ça. Et pourquoi il se coupe à 8, 20 heures, il est pas couché, à 21 heures, il est pas couché. Et pourquoi si... Mais je me suis dit, foutez-moi la paix, mais laissez-moi élever mon enfant comme j'en ai envie.
Bah quand on voit leur exemple, là, surtout, il y a de quoi rigoler. Quoi.
Exactement. Et c'est quand même mon enfant, le seul des 7 petits-enfants qui, enfin, on va dire pas ça, mais qui est extrêmement équilibré.
Oui.
Hyper bien dans sa peau, qui fait un sport qui le passionne, qui est passionné, qui est joyeux, qui...
Et c'est là où je vous disais, quelle belle revanche. Vous avez réussi là où ils n'ont pas, où ils ont tous échoué.
Ouais. Ouais, mais ça me, voilà, ça me rend quand même quelque part. J'ai quand même une blessure en moi. Et, pas en moi, mais... Pardon, excusez-moi. Je me dis, quel dommage. On pourrait être une grande famille, réunie. On ne se réunit jamais. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait Noël avec eux. On ne vient jamais me voir. C'est tout le temps moi, parce que mes parents vivent à moitié à la montagne, et mes sœurs aussi, et à Paris. C'est tout le temps moi qui vais à la montagne. Donc, je vois quand même mes sœurs, mais on se dit bonjour, on ne se parle pas vraiment. Je fais toujours l'effort d'y aller, j'emmène mon fils. Et par contre, moi, jamais personne ne vient me voir. Jamais.
Alors, autant du côté des parents, je pense que pour moi, il n'y a plus rien, il n'y a pas grand-chose à en attendre, à part effectivement prendre de la distance et ne pas vous laisser salir par toute cette haine. En revanche, moi, je compterais sur la jeune génération, là, sur les ados, pour renouer peut-être des liens familiaux plus apaisés plus tard avec vos sœurs. Pas forcément tout de suite, mais quelque chose avec dans le temps qui pourrait s'apaiser. Grâce à eux, justement, peut-être.
À mes nièces, voilà. Parce que c'est vrai que mes nièces, elles sont le lien. J'ai l'impression de retrouver mes sœurs avec mes nièces.
Oui, je comprends, oui. Il y a vos nièces et votre fils qui est à peu près le même âge. Hein, fils, même,
C'est ça, exactement. Et on est aussi très liés. Elles me racontent tout, ce qu'elles ne racontent pas à leur mère, par exemple. Vu que moi, je suis la tata très, très cool... Alors que les mamans, elles se ferment les yeux sur ce qui se passe, sur le monde, sur, je sais pas, sur Internet, sur la pilule, sur coucher, sur boire, sur toutes les choses que ma nièce, par exemple, sa mère pense que non, mais pas ma fille, mais pas du tout. Alors que si, vous voyez, elle se ferme les yeux aussi sur pas mal de choses, quoi. Donc voilà, moi j'essaie d'apporter de l'amour et du bonheur à mes nièces, à mon fils, et puis... de vivre, d'être heureuse. Et...
Puis je crois que toute l'énergie que vous avez mis à lutter contre vos parents, finalement, il vaut mieux la garder pour vous.
C'est ça.
Et pour peut-être petit à petit reconstruire des petits liens, même s'ils sont petits, mais des liens quand même avec vos sœurs.
Oui. J'ai compris ça. Ça fait une année. Je me sens très, très bien soulagée, mais voilà. Très triste en même temps de se dire qu'on a des parents et que.
Mais en même temps, là aussi, vous l'avez compris, c'est... ils ont fait ce qu'ils ont pu avec leur bagage, avec ce qu'ils avaient.
Oui, mais ça, j'ai du mal avec ça, parce que moi, j'aurais pu aussi me comporter comme ça, j'aurais pu aussi, et je ne l'ai pas fait, donc pourquoi eux, ils continuent ce schéma ?
Alors, à leur décharge, la génération précédente n'allait pas facilement se confier en thérapie, se soigner pour aller mieux. Ouais, on le sait, ça, c'était quand même beaucoup moins facile, beaucoup moins courant, il y avait aussi une honte à le faire. Les psys, vous savez ce qu'on disait, les psys, c'est pour les fous. Bah, oui, bien sûr.
Mais oui, non, mais c'est ça. C'est pour... Et en plus, sachant que son père s'est donné la mort parce que tout le monde a dit aussi qu'il était fou. Donc, si vous voulez, lui, je pense que mon père a voulu... il a vécu à côté de nous et pas avec nous, en fait. Si vous voulez, on a marché pas mal dans la main, mais côte à côte et sans se regarder. Et...
Mais je crois même qu'il a arrêté de vivre, votre père, complètement.
Ah, complètement.
Il s'est inventé, il s'est mis dans un monde parallèle et il a survécu plutôt qu'autre chose.
Hein. C'est ça. Même encore. Non, c'est ce que je dis. Il est mort vivant. C'est dur ces mots-là, mais c'est ce qu'on se dit aussi avec mes nièces. Avec, il est là, mais il parle pas. Il est allongé dans un canapé. Il est comme une plante.
Donc vous avez été, vous, ce qu'on appelle un dégât collatéral de tout ça, mais ça n'est pas votre faute, ça n'est pas contre vous. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il n'était pas capable d'être père, tout simplement.
Oui, mais bon, il y a des choses qu'on ne supporte plus à 52 ans.
Bien évidemment, ça, une fois de plus, ça explique, ça n'excuse pas.
On ne peut plus, moi je ne peux plus, mentalement, je ne peux plus qu'on me parle comme si j'avais 12 ans, tais-toi, on n'a pas le droit d'être joyeux, la joie, on ne peut pas, ça me dérange mon père. On peut pas rigoler. Ça... à table, quand on se retrouve, très peu, on ne peut pas parler. Si les petits-enfants parlent, il dit arrêtez de parler, vous me fatiguez. Enfin, on n'a pas le droit d'exprimer ses opinions, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Moi, je ne peux plus à 52 ans.
Non, mais tout est bloqué de ce côté-là, je le sens bien. Tout est figé, tout est coincé, tout est douloureux. Donc, effectivement.
Moi, je fais tout le contraire. Dis tout ce que je pense. Et donc, ça fait des conflits. Parce qu'on me traite d'hystérique, Non, je ne suis pas hystérique, je leur ai dit, je vous dis des choses, vous nous faites du mal, voilà pourquoi, etc. etc. Et
ils ne peuvent pas l'entendre, Estelle. C'est impossible pour eux. Ça voudrait dire une remise en question et ils n'en sont pas capables du tout.
C'est ça. Donc, je suis tellement épuisée de chercher cette tendresse, cette écoute, que bon, j'ai abandonné.
Je pense qu'ils n'en sont pas capables parce que votre mère est trop fière, je dirais, pour se remettre en question. Mmh. Et votre père, ce serait trop douloureux pour lui de remuer tout ça. Oui. Donc les deux sont barricadés, chacun, elle, dans sa forte personnalité, dans son caractère et dans son
côté. Imagine, pour nous, se construire, c'est moi, toutes mes relations avec les hommes. Maintenant, j'ai peur d'en avoir parce que j'ai peur de me comporter comme ma mère. Je me suis souvent comportée comme ma mère.
Mais quand même, vous avez quand même construit un couple, fait un enfant et vous êtes en bonne relation avec le père. C'est énorme déjà tout ça.
En fait, on n'est pas en couple. Souvent, les gens pensent qu'on est encore en couple.
C'est quand même une belle revanche.
Mais on n'est plus du tout en couple et je l'aime beaucoup. Hein. Je le considère comme un grand frère, comme un soutien, une épaule. On s'appelle presque tous les jours. Et c'est lui mon lien, en fait, ma famille, puisque même mes beaux-parents, j'appelle toujours mes beaux-parents, hein, même si on est séparés depuis 10 ans.
Et vous voyez, vous n'avez pas reproduit le schéma conflictuel.
Non.
Vous avez réussi à en sortir, donc ça, c'est une belle victoire.
Voilà.
C'est une très belle victoire.
C'était pour parler un petit peu de ça et de dire que, ouais, il faut arrêter de se torturer, quoi, en fait, et d'avancer pour soi et son fils, hein, ses enfants. Et pas se comporter comme des parents. Moi, je supporte plus l'autorité, je supporte plus tout ça. J'ai jamais supporté d'ailleurs.
C'est un peu normal quand on entend votre histoire.
Donc voilà.
Je fermerai pas la porte complètement une fois encore à vos sœurs.
Mais à vos sœurs, oui, je sais bien. Ouais.
Je pense que les petits, les grands petits là qui arrivent derrière, ils vont remettre de l'harmonie dans tout ça.
Avec le temps. C'est vrai que ma nièce, elle est venue l'année dernière. Chez moi, c'était la première fois. Oui. Par exemple, ma sœur, j'ai jamais eu mes neveux et mes nièces en vacances. On m'a jamais confié les enfants. Alors que je suis moi-même maman, oui, parce que mes sœurs ne me faisaient pas confiance. Parce que...
Et ça, il serait peut-être temps de ranger ça aussi dans le placard du passé.
Mmh, ouais.
Et vous laisser la possibilité de construire un autre avenir avec elles. Vous allez voir, cette génération-là, ils vont grandir. Dans quelques années, ils vont devenir parents. Ils vont avoir des petits.
C'est ça.
Et ça serait peut-être l'occasion autour des bébés de se retrouver, vous voyez.
Ah oui, je pense que
laisser les choses se calmer,
c'est pas...
Ouais, c'est pas définitif.
On s'est toujours dit, même avec une de mes sœurs, quand notre père sera mort, c'est dingue, hein, mais quand notre père sera mort, je pense qu'on sera délivrés.
Ouais, c'est fou d'en arriver là, mais je comprends.
Non, mais
je comprends.
Voilà. Même moi, je m'écoute parler, je me dis, non mais... heureusement que c'est anonyme et qu'on se voit pas.
Non mais il y a eu tellement de souffrance qu'on peut le comprendre.
Non mais me dire, moi aussi, vous vous rendez compte, de se dire, quand mon père sera plus là, on sera libérés, on pourra enfin se réconcilier. C'est dingue, mais j'aurais quel âge ?
Ça vous... mais en même temps, votre mère, il se passera quoi avec elle à ce moment-là ?
Ah ben c'est ça.
C'est pas
ma mère,
si simple.
Je lui dis combien de fois ? Je lui dis Je lui dis quand il sera parti, tu vas revenir vers nous, c'est ça ?
Ça sera un peu tard, je le crains.
Eh mais oui. Donc, je sais pas. Ça... Après, ce sera son problème, vous voyez. Ce sera pas mon problème.
Voilà une saine réaction, je trouve.
Elle fera ce qu'elle voudra. Elle a eu le même rapport avec sa mère. Elles ne sont jamais entendues. Elle a été soulagée quand sa mère est décédée. Alors moi, j'aimais beaucoup ma grand-mère, c'est marrant. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, j'ai réussi à tourner la page. Mais cette souffrance, ça me fait mal pour mon père, en fait. Vraiment, ça me fait mal pour lui de le voir dans cet état. Et toute ma vie, j'ai voulu me battre.
Je le comprends, mais en même temps, chacun est responsable de son bonheur.
Ouais.
On ne peut pas réparer les autres contre leur gré.
Ouais, mais franchement, je ne comprends pas. Moi, en tant que maman, comment on peut passer à côté de ses enfants ?
Quand on est bloqué dans ses souffrances, on n'arrive même plus à s'en rendre compte. En tout cas, vous en êtes sortie, Estelle, et vraiment, bravo.
Voilà.
Je trouve que vous êtes une sacrée bonne femme.
Bah écoutez, oui, je ne sais pas, mais...
Et vous avez un chouette petit bonhomme à la maison, je pense.
Ah ouais, ça c'est vraiment mon rayon de soleil, il m'apporte de la force, des réflexions. Et puis on s'entend, ouais, c'est vrai qu'on s'entend très bien et... On fait plein de choses ensemble.
Profitez-en bien et allez vers le positif maintenant. Okay. Hein, d'accord.
Je vous remercie pour votre écoute.
Avec grand plaisir, Estelle.
Et bonne soirée et puis bon anniversaire.
Merci mille fois, je vous embrasse.
Merci, au revoir.
Au revoir, Estelle.